Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois pour une troisième émission Benoît Schmitt. Benoît, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors vous êtes agrégé, hein, je le rappelle, vous êtes agrégé normalien, vous préparez une thèse sur le pouvoir pontifical au XVIe siècle et vous venez nous présenter des portraits d'intellectuels catholiques du XIXe et du XXe siècle. Alors nous avons déjà présenté Monseigneur Dupanloup, nous avons présenté Joseph de Maistre, aujourd'hui vous venez nous présenter Louis Veuillot. Alors, Veuillot, quelle fut cette figure, j'allais dire, d'un point de vue général, pour introduire le personnage, qui fut Louis Veuillot ?
Eh bien, Louis Veuillot, ce fut une des figures majeures du catholicisme intransigeant en France au XIXe siècle. Figure de laïc, ce qui le différencie peut-être d'un certain nombre d'autres catholiques intransigeants célèbres, comme des évêques, je pense à Monseigneur Pie en particulier, ou à Monseigneur Frépel. Ce fut aussi un très grand journaliste, un journaliste dont on a sans doute du mal aujourd'hui à imaginer l'influence, mais qui exerça pendant plusieurs décennies un magistère très important sur les laïcs catholiques, mais aussi sur une bonne part du clergé.
C'est un personnage incontournable du XIXe siècle, sans aucun doute.
C'est un personnage incontournable, mais qui est tombé dans une sorte de purgatoire parce que son catholicisme intransigeant a été jugé peut-être dépassé. Aussi parce qu'on a stigmatisé chez lui une certaine violence verbale qui ne cadrait plus avec l'idée qu'on se faisait d'une apologétique dépassionnée. Mais en réalité, cela reste quand même un personnage tout à fait intéressant qui a su mettre son réel talent de polémiste au service de ses convictions.
Être laïque, ça aide justement sur cette question de la violence verbale. Et au fond, c'est un peu l'esprit de la Troisième République, les grands débats que l'on retrouvait à profusion, par exemple, à l'Assemblée nationale.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque où la violence verbale entre journalistes, notamment, pouvait atteindre des sommets. Et de ce côté-là, Louis Veuillot rendait coup pour coup et n'avait pas, dirons-nous, certaines prudence que pouvaient avoir les ecclésiastiques, il était tout à fait dans la norme de l'époque.
Alors, quelles sont les origines de Louis Veuillot ?
Eh bien, Louis Veuillot est un fils d'ouvrier tonnelier, né en 1813 dans le Gâtinais. Et Louis Veuillot va connaître cette enfance de fils du peuple. Bientôt, sa famille s'installera à Bercy. Sa mère avait quand même dans l'idée, étant donné ses dispositions quand même pour l'étude, d'en faire un jurisconsulte et il fut placé comme clerc chez un avoué. Il grandit dans un milieu où on lui parla en fait très peu de Dieu. Il a vécu quand même dans un milieu très déchristianisé. Et cela compte parce qu'il y a eu vraiment une rupture dans sa vie qui est sa conversion. Et avant celle-ci, en fait, il est devenu journaliste. Il a fait ses premières armes en province, à Rouen, puis en Périgueux, et enfin à Paris. Et quand on lit un petit peu le récit de ces années-là, on sent un Louis Veuillot grisé par une vie très stimulante, faite de joyeuses soirées. Un petit peu, ça fait vraiment penser à la description que Balzac fait du milieu des journalistes dans Les Illusions perdues. Il y a du Lucien de Rubempré chez Louis Veuillot à ce moment-là.
Mais travailleur
et avec un talent qui le fait repérer très rapidement et qui lui permet finalement de revenir assez vite à Paris et de servir. À l'époque, c'était un métier, enfin un usage qu'on faisait des journalistes. Il doit aussi servir le gouvernement. Il est envoyé par exemple en renfort de temps en temps pour favoriser l'élection d'un candidat gouvernemental et il doit en quelque sorte monter un journal ou en stimuler un pour faire élire le candidat.
Alors, ses origines modestes, Benoît, sont très très importante. Vous le disiez tout à l'heure, il vit dans un monde déchristianisé. En revanche, il y a une conversion à un moment de sa vie. Comment s'opère cette conversion ?
Eh bien, il a été entraîné à Rome par un ami au printemps 1838. Et c'est là, au bout de quelques semaines, que va avoir lieu sa conversion. On le sent, il y a un flottement pendant plusieurs jours. Et finalement, il décide de se confesser, puisque bon, la grande affaire, quand même, pour un homme catholique au XIXe siècle, la pierre d'achoppement, c'est la confession. Il parlera d'âpre seuil. On se souvient d'ailleurs que c'est aussi quelques années après que Michelet attaquera très fortement le rôle de directeur de conscience des prêtres vis-à-vis des femmes. Lui, au contraire, va faire de cette conversion et de cette confession la matrice de ses engagements ultérieurs et insistera toujours sur la nécessité de retrouver Dieu. Et c'est là aussi que l'on comprend mieux son originalité dans le paysage catholique du 19e siècle. Parce que venant d'un milieu modeste, il avait connu la misère finalement de l'homme sans Dieu, comme aurait dit Pascal. Et il y insista à de nombreuses reprises, notamment face aux catholiques libéraux, dénonçant une sorte de catholicisme bourgeois qui ne connaissait pas l'ampleur du besoin spirituel du peuple. Il disait, par exemple, à propos des catholiques modérés d'un autre journal qui s'appelait Le Correspondant, il leur disait « Je suis trop ignorant pour n'avoir pas de la violence, il leur manque du sang », donc en parlant de ces journalistes modérés, « de la haine contre une société où ils ont leur place et dont les velours et la dentelle les empêchent de voir les plaies et de sentir les corruptions. Ils ignorent ce qui se passe dans la rue, ils n'y ont jamais mis les pieds. Moi j'en viens, j'y suis né, et pour tout dire, j'y demeure encore. » Homme de la rue, Louis Veuillot ne pouvait qu'être défiant vis-à-vis d'une sorte de catholicisme établi ou installé dans un confort et dans des compromissions.
Cette question est très importante. Est-ce que finalement les convertis, ce sont les plus zélés? Alors il faut mettre cela sur le compte plus, enfin ce ton très dur, il faut mettre cela sur le compte de cette conversion ou bien au contraire de ses origines plus modestes qui font contrepoint à cette conversion?
Je crois que c'est les deux en réalité, parce que ayant connu un milieu déchristianisé, il a ensuite vu combien le christianisme pouvait apporter de consolation. Il le dit notamment à la mort de son père, où il a des pages assez poignantes sur le fait que son père n'avait pas connu les consolations de la religion, n'avait connu que des devoirs d'une morale dure et rigide, mais sans espoir et sans amour. Et je crois quand même, on a vraiment là, dans cette conversion et dans ses origines modestes, le ressort d'une indignation très profonde devant la société moderne et qu'on ne peut pas réduire voilà, simplement à un raisonnement d'intellectuel ou au fait d'un homme de principe. Il y a de la colère chez Louis Veuillot et c'est ce qui explique ses articles futurs et sa violence aussi.
Mais vous avez utilisé un terme qui est très important, c'est celui d'amour par rapport à son père. Il comprend immédiatement que le christianisme enseigne cette charité. Ce qui peut paraître paradoxal par rapport justement au ton qu'il utilise.
Oui, tout à fait. Je crois que le dieu de Louis Veuillot est aussi un dieu violent et un dieu jaloux, d'où cette colère. Et bien sûr, il y a cette dimension de charité, d'amour qu'il ne néglige pas du tout, mais chez lui, cela va de pair quand même avec un sens de l'injustice aussi. Et l'injustice la plus profonde qui est faite au peuple, pour lui, c'est qu'on néglige de lui transmettre la religion chrétienne.
Alors, le temps court, Benoît Schmitt, il entre en fait à l'univers. Hein, c'est... Oui. On associe généralement Louis Veuillot au journal L'Univers. Il n'en est pas le directeur.
Il y rentre d'abord comme rédacteur et très rapidement, il en devient le rédacteur en chef et il va donner en fait à L'Univers, qui était un journal qui végétait quand même un petit peu, un souffle et une envergure vraiment nouvelle grâce à son talent de journaliste. Et L'Univers devient vraiment une institution au sein de l'Église catholique. C'est un journal qui est lu par quand même une très grande majorité des curés, des vicaires, de paroisses, ce qui provoque d'ailleurs l'irritation d'un certain nombre d'évêques qui sont quelque peu réticents à l'idée qu'un laïc puisse exercer un tel magistère. Et cela lui vaudra des démêlés sévères, notamment par exemple avec l'archevêque de Paris, Monseigneur de Cibourg, qui en août 1850 admoneste L'Univers pour manquement à la prudence, à la mesure, à la charité, à la justice et pour faire de bonne mesure au respect de l'autorité. Donc il y a eu des conflits très sévères aussi avec Monseigneur Dupanloup. Évidemment, ça sera un des conflits entre catholiques qui va dominer le siècle. Et une crise assez grave éclatera notamment autour de la question de la liberté de l'enseignement, puisque Louis Veuillot n'admettra pas les concessions que font les catholiques libéraux, et notamment Monseigneur Dupanloup. Lui voulait une pleine liberté, alors que la loi Falloux a finalement établi un compromis.
Alors Veuillot, c'est important ce que vous dites, parce que Veuillot est à la frontière de la religion et de la politique. Il est engagé dans le monde politique.
Oui, il exerce aussi une grande influence sur la scène politique. Et ce qui va le distinguer aussi d'un certain nombre d'autres catholiques, c'est qu'il va choisir de se rallier à Bonaparte, à Louis-Napoléon Bonaparte, au moment du coup d'État de décembre 1851.
Comme la plupart des catholiques d'ailleurs.
Oui, mais pas tous, parce que certains ont quand même été réticents. Si on pense à Berryer, si on pense à un certain nombre d'autres, certains vont quand même prendre du champ, alors que lui, il y apporte un ralliement franc et massif, comme d'autres, c'est vrai. Mais cela va du coup l'engager dans une voie qui était celle du soutien au pouvoir établi. C'était pas forcément d'ailleurs dans ce registre qu'il excellait, parce qu'il était plus doué pour la critique que pour l'éloge. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il restera quand même fidèle à ses convictions et que ça lui coûtera très cher, puisqu'il va rompre avec l'Empire sur la politique italienne, ce qui vaudra à Louis Veuillot de voir son journal L'Univers suspendu pendant 7 années, de 1860 à 1867.
Donc, ce qui donne une image de lui, finalement, très positive, dans la mesure où c'est un homme qui reste fidèle à ses convictions et qui n'hésite pas à pourfendre le pouvoir quand celui-ci ne correspond plus à ses options, ce qui signifie quelque chose à une époque où la liberté de la presse n'existait pas.
Oui, je crois que ses détracteurs lui ont reconnu cette intégrité morale. Mmh. Intégrité morale qui était aussi le reflet de sa conception de la politique, c'est-à-dire que pour lui, il ne se battait pas tellement pour un régime donné à telle ou telle institution, mais pour que les droits de l'Église soient respectés. Et donc tout régime qui respectait les droits de l'Église avait ses faveurs. Les régimes qui ne le faisaient plus subissaient ses foudres, à tel point que parfois on lui ôtait la parole.
Alors, il y a le journaliste tourné et vers le religieux et vers le politique, mais il y a aussi l'écrivain, et l'écrivain est moins connu.
Oui, parce que beaucoup d'ouvrages sont des ouvrages de circonstances. Néanmoins, certains se lisent encore facilement parce que bon, ces articles, d'une certaine façon, passaient la rampe du temps. Il a écrit, par exemple, des recueils comme Le Parfum de Rome ou Les Odeurs de Paris, opposant la ville éternelle à la ville corrompue. Il a écrit surtout en 1866 un livre important qui s'appelle L'illusion libérale, qui a été réédité d'ailleurs récemment aux éditions de Paris, qui est un livre assez intéressant, qui se situe vraiment dans la mouvance du Syllabus qui avait été publié en 1864, où il attaque avec une verve féroce les catholiques libéraux et l'idée que le pouvoir ne doit pas être chrétien, ne doit pas être confessionnel. Lui, il prend exactement le contre-pied, il dit même qu'il faut nager en quelque sorte à contre-courant, qu'il faut se moquer de l'esprit moderne, et il déclare notamment dans l'illusion libérale: le libéralisme catholique nie que le pouvoir puisse être chrétien, je nie qu'il puisse impunément ne l'être pas et que nous puissions impunément nous dispenser de faire tout ce que la religion commande et approuver pour le maintenir chrétien ou l'obliger à le devenir. Toujours cette idée qu'un pouvoir chrétien est protecteur et qu'il est nécessaire et qu'il ne faut pas s'en détacher. Ce n'est pas simplement en vertu d'un principe abstrait, mais chez Veuillot, on sent toujours le souffle d'une expérience, d'une volonté de ne pas laisser l'adversaire l'emporter. Et dans cette mesure-là, je crois que sa violence verbale, sa satire parfois très dure, est intéressante parce qu'il savait aussi mettre les rieurs de son côté, ce que, comme le dit un de ses biographes, Benoît Leroux, ce dont on ne pensait pas les catholiques capables depuis Voltaire, en fait. Et donc, il faut aussi se replacer dans ce contexte-là, dans un contexte offensif de reconquête. Et il n'était pas question pour Louis Veuillot de s'en laisser compter et d'en rester sur un terrain prétendument neutre ou de débat loyal.
Donc, c'est un contempteur de la modernité. Il s'engage, après la disparition de l'Empire, il devient royaliste légitimiste, ce qui, en soi, n'est pas une originalité. Au lendemain de la guerre de 1870, vu que les deux tiers de l'Assemblée nationale étaient royalistes, divisés en deux parties, les légitimistes d'un côté, les orléanistes de l'autre. Est-ce que Louis Veuillot est à distinguer d'un providentialiste comme Joseph de Maistre, ou c'est tout simplement un réactionnaire royaliste, tel qu'il y en avait beaucoup au lendemain de l'Empire ?
Oui, mais il ne se laisse pas en fait facilement saisir. C'est un personnage très complexe et dans une période en plus qui est elle aussi particulièrement complexe. On sait que les catholiques ont eu dans ces années 1870 période de flottement, ne sachant pas très bien à quelle cause se rallier. Louis Veuillot s'était rallié avec certain enthousiasme à Bonaparte pour finalement être déçu. Il y a donc eu le poids de cette expérience qui pèse ici. Et je crois que Veuillot ici essaye de trouver une voie de sortie, mais que il n'y réussira pas vraiment. Il est royaliste à un moment, mais c'est parce que ça lui semble la solution la plus claire et qu'il ne croit pas à cette république conservatrice qu'on essaye de faire miroiter aux catholiques. Son souci majeur reste le problème des droits de l'Église, la question italienne par exemple, la question des états pontificaux qui viennent d'être supprimés par l'Italie. Il attaquera d'ailleurs à ce sujet très durement Dupanloup, qui n'avait pas suffisamment réagi à son gré à l'envoi d'un ambassadeur français au Quirinal en 1872. Il le traitera même de Ponce Pilate à ce moment-là. Ça reste quand même sa grande obsession à ce moment-là.
Oui, il y a aussi la question de l'infaillibilité pontificale.
Donc il est un partisan.
Il sera au Concile Vatican.
Oui, il sera comme observateur, comme journaliste. Il s'installera à Rome avant de rentrer au moment de la guerre de 1870.
Quelques mots de conclusion, Benoît Schmitt, sur ce catholique ultra.
Mais je crois que c'est un personnage qui mérite d'être réévalué. Albert Thibaudet disait en 1931 que c'était sans doute le plus grand journaliste du 19e siècle. C'est une figure essentielle du catholicisme intransigeant. Émile Poula a, de toute façon, dans toute son œuvre, a essayé quand même de réévaluer ce courant intégraliste, ce courant qui ne cédait rien à la modernité, en disant qu'il y avait quand même une part de vérité, même si elle était un petit peu occultée ensuite par l'Église ou par les historiens. Il essayait de rappeler qu'il y avait une part quand même de vrai, et notamment chez Louis Veuillot, qui reste encore aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup Benoît Schmitt. Je renvoie nos auditeurs à deux ouvrages. Une biographie tout d'abord de Pierre Pirard chez Beauchesne, Louis Veuillot, et également chez Pierre Tecky, éditeur, Louis Veuillot, un homme, un combat, de Benoît Leroux. Donc Pierre Tecky, éditeur, Benoît Leroux. Merci beaucoup Benoît, et à très bientôt pour un nouveau portrait d'intellectuel catholique du 19e ou du 20e siècle.